Aujourd'hui, dans nos ordinateurs, il y a beaucoup de ressources inutilisées. Si vous regardez votre disque dur, il y a la moitié qui est vide.
Si vous vous abonnez à Google Drive, vous amusez à lire les 58 pages de conditions générales, vous arrivez à la page 41 ou quelque chose comme ça, et puis en fait, vous mettez vos données à disposition de Google, peut les monétiser, qui peut en faire ce qu'il veut, non seulement lui, mais les tiers en qui lui fait confiance. Aujourd'hui, en termes d'empreinte carbone, ce qui coûte le plus cher dans la vie d'un ordinateur, c'est sa fabrication. Donc à partir du moment où on a tous ces ordinateurs largement sous-utilisés, c'est aussi une chasse au gaspillage. Et un gain en termes d'empreinte carbone, parce qu'on utilise des choses qui existent.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Après un passage à Polytechnique et à Télécom Paris, il commence sa vie professionnelle par la recherche. Il fonde par la suite une première entreprise dans les télécommunications, dénommée Udcast, et rejoint ensuite plusieurs entreprises de haute technologie en tant que CTO, et il prend la tête de Hive, une solution de cloud décentralisée. Salut Antoine, comment vas-tu ?
Bonjour Paul, très bien.
On est hyper content de t'accueillir à notre micro aujourd'hui. Est-ce que déjà la présentation est plutôt réussie ou pas ?
Ah, c'est assez fidèle à mon parcours. J'ai toujours navigué dans des petites et moyennes structures avec l'esprit que moi, ce qui m'anime, c'est l'entrepreneuriat et c'est l'innovation. Voilà. Donc, j'ai cherché à rester dans des structures dans lesquelles je pouvais faire la différence en termes d'innovation. Et donc, ça a été le cas au début de ma carrière. À partir de la recherche, j'ai voulu appliquer ce qu'on avait pu découvrir. Et puis après, au-delà, essayer d'aller franchir, garder les limites de la technologie et toujours intéressé par la deep tech. Dans un schéma européen qui, on y reviendra peut-être, et faire ça en Europe, c'est à la fois un challenge, mais je pense que c'est aussi un environnement idéal.
On y reviendra. Et du coup, tu es l'invité parfait parce qu'on enregistre cet épisode en plein cœur de VivaTech. C'est pour ça qu'on entend un petit peu le bruit autour. VivaTech, c'est le salon, le plus grand salon d'Europe sur les startups, l'innovation et je pense même les startups de rupture, donc la deep tech. Yves s'y intègre totalement. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est, Yves ?
Alors, Hive, c'est une solution de cloud distribué. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, aujourd'hui, dans nos ordinateurs, dans votre ordinateur, j'imagine, il y a beaucoup de capacités inutilisées, beaucoup de ressources inutilisées. Si vous regardez votre disque dur, peut-être qu'il y a la moitié qui est vide. Mmh. Et l'idée, c'est de mettre toutes ces ressources ensemble, qu'on estime à peu près à 50% des ressources disponibles sur les ordinateurs, pour fournir des services cloud.
Okay.
Ce qui aujourd'hui, ce sont des services fournis par des gros data centers et on va fournir des services équivalents. Donc, c'est une sorte de cloud communautaire.
J'ai plein de questions sur les enjeux, sur comment tu fais ça, etc. Mais on reviendra là-dessus après pour pas rentrer trop vite dans le cœur du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est un cloud ? Parce que moi, quand je dis cloud à ma maman, bon, si elle nous écoute aujourd'hui, elle est plus trop d'accord avec ça, mais il y a quand même quelques années, elle me disait que c'était un nuage. Donc, voilà, pour te poser les bases.
On dit toujours nuage en français, même si on a tendance à utiliser beaucoup d'anglicisme avec cloud. Alors, le cloud, c'est quoi ? L'informatique a longtemps été l'histoire d'ordinateurs personnels et les choses sont exécutées sur nos ordinateurs. On a des applications et des données. Et puis, la mobilité aidant, on a régulièrement, on se déplace et à l'arrivée du mobile. Et en fait, on consomme aujourd'hui nos applications et nos données sur plein d'ordinateurs et plein de dispositifs. Et en fait, c'était pas très pratique. Donc, à un moment, l'idée a été de dire, en fait, on va mettre les données quelque part sur Internet. Et on va avoir des ressources quelque part sur Internet qui font des sortes d'ordinateurs virtuels et c'est ça qu'on va utiliser. Donc ça a beaucoup d'avantages dans la capacité de pouvoir accéder à ces données où qu'on soit, de se déplacer. Donc ça, c'est le cloud pour le grand public. Et puis après, pour les entreprises, il y a eu un peu un phénomène similaire où en fait, on mettait des serveurs dans des hangars et puis on achetait ses propres serveurs. Et puis, à un moment, on s'est dit, c'est mieux de déléguer ça. Mmh. Et puis, en fait, d'accéder à des machines à distance. Donc, toutes ces capacités de calcul qu'on peut acheter à la demande, stocker ces données à la demande, c'est ce qu'on appelle le cloud. Alors, beaucoup de gens utilisent sans le savoir. Si vous avez votre téléphone qui va sauvegarder vos photos quelque part Et ben le quelque part, c'est le cloud.
Voilà. Et donc iCloud par exemple en fait partie, Dropbox, en fait. Etc.
Exactement.
Avant de creuser sur les enjeux justement autour du cloud et pourquoi le cloud distribué, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement justement techniquement comment ça marche un cloud, comment on va stocker des données en fait un peu partout dans le monde?
Alors, pour stocker les données un peu partout dans le monde, aujourd'hui, il y a des machines réelles hein, qui hébergent vos données.
Le data center, c'est ça?
Aujourd'hui, c'est dans des data centers. Donc, dans des data centers, c'est quoi? C'est des grands hangars avec des grands racks dans lesquels on empile des serveurs et des serveurs et des serveurs. Quand vous allez mettre vos données dans le cloud, elles vont circuler sur Internet. Elles vont arriver dans le data center qui correspond où sont hébergés, votre hébergeur héberge ces données. Donc, si c'est iCloud dans un data center d'Apple ou dans un data center de Facebook. Elles vont être stockées sur un ordinateur là, avec bien sûr tous les moyens qui sont nécessaires pour que vous puissiez récupérer ces données. Donc aujourd'hui, ça se repose principalement, ce qui a rendu possible le cloud, c'est Internet.
Est-ce que tu as quelques éléments chiffrés à propos de ce marché? Aujourd'hui, ça représente combien?
Alors, si on regarde particulièrement les deux services majeurs du cloud, hein, qui sont le stockage de données et le calcul, donc le cloud storage et le cloud compute, pour faire un peu d'anglicisme, on parle à peu près d'un marché qui avoisinera les 1000 milliards de dollars d'ici 2025. Hein, donc, c'est l'ordre de grandeur, c'est...
Ça, c'est marché tout secteur confondu, c'est-à-dire B2C, B2B, ou c'est marché...
Tout secteur confondu.
Ok. Et le B2B par rapport au B2C, ça représente combien?
Alors, le B2B, c'est une grosse partie de ce marché, c'est du B2B. Alors, je vais plutôt le segmenter un peu différemment. Le stockage, c'est à peu près, il y a un rapport de 1 à 7, 1 à 6, 1 à 7 entre le stockage et le calcul. Et le calcul, c'est quasiment qu'un marché B2B.
OK.
Donc, c'est beaucoup du B2B hein, en termes de marché d'un point de vue chiffre d'affaires. Et en fait, pourquoi? Parce que régulièrement, les entreprises ont besoin de capacité de calcul. Et à chaque fois qu'ils ont besoin de capacité de calcul, ils n'achètent pas des ordinateurs. Donc, en fait, ils exploitent le cloud pour ça. Donc, on voit le rapport important vers le B2B. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour le grand public, une grande partie du grand public utilise ces offres en mode gratuit.
T'as parlé comme enjeu de la capacité de calcul. On va revenir dessus juste après. Je crois que Paul a une question là-dessus. Ça fait plusieurs jours qu'il m'en parle. Parce qu'on a des enjeux un peu connexes. Quels sont les autres enjeux du cloud aujourd'hui? Est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que c'est une question de consommation énergétique? Moi, j'ai comme souvenir que les data centers, ça consomme de manière exponentielle. C'est plus le cas. Je sais pas.
Il y a une convergence d'enjeux, hein, puisque c'est ce qu'il faut voir, c'est dans notre parcours. Donc David Gurley, qui est notre fondateur, qui était le PDG de la boîte précédente pour laquelle j'ai travaillé, hein, où j'ai monté pour David la structure de R&D en Europe. Et une des problématiques qu'on avait, c'est précisément le coût et de ces offres cloud. Parce que c'est très, très facile de démarrer une entreprise, un projet. On n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. On fait trois clics sur Internet et puis on a des ressources disponibles dans le cloud. Et puis après, vous grossissez. Vous êtes complètement verrouillé avec un des acteurs majeurs du cloud.
AWS, etc.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit le stockage ou le compute, c'est maîtrisé par trois acteurs dans les deux cas qui maîtrisent 70% du marché. Donc, pour le stockage, c'est Dropbox, Google Drive, OneDrive. Et pour le calcul, on va avoir Azure, AWS et Google Cloud. Et une fois que vous êtes chez un acteur, vous êtes verrouillé. Et ça, c'est un projet de 5 ans d'aller migrer notre offre de service sur un autre acteur. Et on s'est dit quand même, c'est quand même extraordinaire d'avoir une telle contrainte et de tels coûts, alors que finalement, la capacité de calcul aujourd'hui, la capacité de stockage, c'est pas si cher que ça.
Aujourd'hui, c'est possible de migrer Google à Apple ou Google à Odo.
Google, par exemple, pour migrer de AWS à Google, de Amazon à Google, hein, qui était un exemple très concret. Hein. Comme je disais, c'est un projet de plusieurs années. Pourquoi? Parce que, en fait, ils finissent par vous fournir des briques, vous développez vos solutions, puis vos solutions deviennent propriétaires et complètement adaptées au cloud d'Amazon.
Okay.
Donc ça, c'est pour revenir sur un des enjeux, c'est l'enjeu du vendor lock-in et que finalement, en fait, toutes nos données sont concentrées dans les mains de gros acteurs.
Ouais.
Alors, C'est un problème du coup de coût, bon, forcément. Donc là aussi, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent à diversifier leur offre, à avoir des offres multi-cloud. Mmh. C'est aussi un enjeu de souveraineté.
Ouais.
Alors là, on rentre plutôt dans la sphère publique. Mmh. Qu'aujourd'hui, ce ne sont que des acteurs américains.
Effectivement. Et, bon, ça, on en reparlera.
Et donc là, on après. Pourra reparler du cloud souverain. Et puis, vous l'avez mentionné, c'est aussi un enjeu énergétique, écologique.
Mmh. Ok. À ce sujet-là, je me permets de rebondir du coup sur la souveraineté. Mmh. C'est vrai que quand on parle de cloud, moi je parle aussi des fois à ma mère, elle me dit mais elles sont où mes données en fait ? C'est vrai qu'on ne sait même pas forcément où elles sont stockées. En quoi justement c'est un problème en termes de sécurité personnelle, de confidentialité, le fait d'avoir des données en fait qui sont stockées
Alors la confidentialité, il y a plusieurs aspects sur la confidentialité. D'abord, alors vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais si vous vous abonnez à Google Drive, vous amusez à lire les 58 pages de conditions générales, vous arrivez à la page 41 ou quelque chose comme ça, et puis en fait, vous mettez vos données à disposition de Google, qui peut les monétiser, qui peut en faire ce qu'il veut, non seulement lui, mais les tiers en qui lui fait confiance.
Ouais.
Donc, en fait, vous abandonnez le droit sur vos données. Et on le voit, après, il n'y a pas de magie, hein, s'ils arrivent à compléter les mails au fur et à mesure que vous les tapez, c'est parce qu'ils sont allés regarder ce que vos données, ils sont allés comprendre, voilà. Donc ça, c'est tous les mécanismes d'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Donc, vos données chez les gros acteurs du cloud ne sont pas confidentielles.
Ouais.
Voilà. Alors après, les enjeux qu'il y a au niveau de la souveraineté et au niveau de la localisation des données, là, ça, on rentre dans des aspects aussi juridiques. C'est-à-dire, en fait, vos données sur le territoire américain par une boîte américaine sont à disposition de l'État américain. Donc là, on rentre sur, et on y reviendra peut-être, sur la difficulté d'harmonisation aussi qu'on peut avoir au niveau mondial du droit sur les données qui dans le monde anglo-saxon et dans le monde européen sont vus de manière complètement différente.
Mmh. Aujourd'hui, Yves, c'est une solution à ça, sa souveraineté des données.
Oui, alors Hive, on apporte notre vision sur la souveraineté et une solution à la souveraineté parce que ce qu'il faut voir, alors quand on dit que c'est un cloud communautaire, c'est en fait, on regroupe les ressources de tout un tas d'utilisateurs dans le monde. Mmh. Aujourd'hui, on a déjà des gens dans plus d'une cinquantaine de pays.
Mmh.
Hein, donc, que ce soit en Amérique du Sud, aux États-Unis, mais en Europe, en Asie. Et en fait, c'est comme si on disposait de nano data centers. Mmh. On a des tout petits contributeurs.
Ouais.
Et donc, en fait, on peut choisir de localiser ces données dans une région donnée parce qu'on a une grande flexibilité, nous, sur le périmètre où on veut pouvoir héberger ces données.
Tu nous parlais aussi tout à l'heure de capacité de calcul. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond ? Donc, quand on dit on va utiliser la capacité de calcul de particuliers, par exemple, ou de nos machines, ça correspond à quel composant, par exemple, et comment on peut imaginer ça ?
Alors aujourd'hui, dans un ordinateur, vous avez de la mémoire, vous avez un disque dur magnétique, plus magnétique en fait, c'est du SSD, hein, donc voilà, donc c'est de la mémoire, on va dire, qui résiste au démarrage de la machine. Et puis vous avez le cerveau qu'on appelle un CPU, et puis un GPU, donc en fait c'est des composants qui font des calculs. Alors on pourra en revenir, mais un des aspects qui va devenir très consommateur en calcul, c'est tout l'apprentissage de l'IA. Voilà, ça, c'est un exemple notamment. Après, dans le monde plus traditionnel, on peut avoir des gens qui vont faire des gros calculs de structure dans le monde du bâtiment ou alors du calcul de films d'animation pour faire du rendering de films d'animation. Donc, en fait, on a des tas d'industries qui ont aujourd'hui besoin de grosses puissances de calcul. Hein. Pour sortir un film d'animation, il faut des heures et des heures de serveurs qui calculent les rayons de lumière pour donner les bons rendus. Et puis, pour faire apprendre toutes les données de Wikipédia à ChatGPT, il faut aussi beaucoup d'heures de calcul.
Quand Nvidia a annoncé un super ordinateur de calcul pour toutes les solutions d'intelligence artificielle, c'est ce type de calcul dont tu parles ?
Alors, ça en fait partie. Nous, on reste relativement générique parce qu'on va exploiter les solutions des ordinateurs dont les gens disposent.
Ouais.
Parmi les composants qui sont utiles dans tout ce qui est calcul autour de l'intelligence artificielle, et là où Nvidia a un rôle à jouer, c'est dans les processeurs graphiques qui ont des caractéristiques utiles pour les calculs d'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'ils se positionnent là-dessus. Et dans nos machines, on a aussi des GPU de Nvidia.
Hyper intéressant. Paul, est-ce que tu voulais aller sur l'environnement
pourquoi pas, ouais, c'est le moment peut-être de le mentionner, comme tu le disais tout à l'heure, pardon. Donc c'est souvent quelque chose qui est considéré comme énergivore. C'est vrai que on parle beaucoup des data centers comme un catastrophe écologique. Pourquoi en fait c'est une technologie qui n'est pas vraiment propre pour l'environnement? Et est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui d'améliorer même l'impact carbone de ce genre de technologie déjà centralisée?
Alors déjà, il faut voir que bon, le numérique a envahi nos quotidiens, on l'utilise de plus en plus, donc il y a une utilisation qui est exponentielle. Hein. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que la consommation d'électricité par les data centers est estimé à peu près à 1% de l'électricité mondiale, ce qui est déjà colossal. Et il y a quelques études, alors c'est difficile de faire des projections là-dessus, bien sûr, mais il y a quelques études qui pensent qu'à la fin de la décennie, ça représentera 20%, ce qui est absolument colossal.
En 2030, ce serait 20% de l'électricité mondiale.
Donc, il y a une étude de 2017 qui annonce ce chiffre. En tout cas, ça nous fait prendre conscience que quand ça va commencer à dépasser l'empreinte carbone de l'industrie aérienne, ouais, qu'on dit bon faut arrêter de voyager en avion, il y a aussi d'autres choses qu'il faut considérer.
Ouais, dans ses mails.
Par exemple, éviter de mettre des pièces en attachement très volumineuses à 50 personnes, voilà. Donc en fait, il y a une prise de conscience que le numérique et ses data centers deviennent des puits énergivores. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs aspects. En fait, la moitié de l'électricité n'est pas consommée par les machines. Mais cette forte concentration, alors je disais le problème.
Elle est consommée par quoi?
Cette forte concentration d'ordinateurs, ouais, ça crée de la chaleur. Donc, consommée par la climatisation, le refroidissement. Okay. Et puis après, il y a un ensemble de machines. Alors, les opérateurs cloud font beaucoup d'efforts pour optimiser, il y a des machines qui sont allumées et qui opèrent pas.
Parce que pour eux, ça génère un coût. C'est pour ça que certains acteurs vont mettre des data centers sous l'eau, vont mettre des data centers dans des pays nordiques où il fait très froid pour avoir moins besoin de réchauffer.
Oui, il y a récemment, je crois qu'il y a Facebook qui a mis un data center au niveau du cercle polaire. Ça reste relativement marginal.
C'est pour de la com qu'ils font ça plus que...
Effectivement, il y a un gain en coût.
Mais
maintenant, après, il faut aller amener les données depuis le data center en Suède vers votre maison, hein. Donc, à la fin, le gros des serveurs, si on regarde, par exemple, les data centers de Google, ils sont pour une grande partie en Amérique du Nord et en Europe du Nord.
Okay.
Donc là aussi, où sont les clients, mais ils sont relativement quand même concentrés, dans les pays développés, plutôt en Amérique du Nord.
Tu peux nous rappeler ce qu'est un data center? Comment ça fonctionne?
Dans un data center, aujourd'hui, c'est la maison du cloud, hein. Donc, c'est des grands hangars dans lesquels on a ces serveurs qui stockent vos photos. Uh-huh. Ou, quand vous allez aller sur beaucoup de sites web qui sont hébergés par ces acteurs, ils vont aller répondre à vos requêtes web. Uh-huh. En fait, toutes vos requêtes Internet, une grande partie vont terminer dans ces data centers pour vous rendre les données.
OK. Il y a un autre problème avec les data centers aussi. Sympa soit-il, c'est notamment ce qui est arrivé à OVH 10 mars 2021 avec l'incendie à Strasbourg. On a vu donc un data center brûlé et avec cet incendie emporté donc les données de milliers d'entreprises. En quoi c'est un problème justement d'avoir toutes ces données au même
moment? En fait, on revient sur le problème de la dépendance. Vous avez une dépendance sur un acteur, aucun acteur n'est infaillible, et vous avez aussi une dépendance sur des lieux physiques bien identifiés. Et on pourra revenir sur l'avantage d'être décentralisé, puisque toute l'idée de l'Internet a été construite autour de l'absence d'un point de vulnérabilité unique.
Ouais.
Et aujourd'hui, on est revenu dans un mode concentré qui est vulnérable.
Parce qu'on n'avait pas le choix, c'est ça, au début, en termes de technologie, on avait...
Non, au contraire. Au contraire. Alors, si on revient un peu à l'origine de l'Internet qui était initialement lancé par la DARPA aux États-Unis, hein, donc c'est il y a un peu plus d'un demi-siècle. En fait, la mission qui leur a été confiée, c'est de faire en sorte, en pleine guerre froide, hein, que quel que soit le lieu bombardé, ça doit continuer à marcher.
D'accord.
Donc, ça a été construit pour ne pas avoir de tête.
Ouais.
Il suffit qu'on tue un équipement, ça repasse par ailleurs. Voilà. Donc, c'était l'esprit initial de l'Internet. C'était quelque chose sans point central. Et puis, au fur et à mesure, on est arrivé à ce qu'on appelle... le web 2.0, où les grands acteurs se sont emparés de l'économie de l'Internet et on se sont mis à maîtriser les ressources de l'Internet et les ont concentrés dans des grands data centers. Donc, quelque part, on s'éloigne de l'esprit initial d'Internet.
Et du coup, aujourd'hui, est-ce que ces data centers, ça n'a pas un enjeu de sécurité aussi? Au sens où si on sait où ils sont où ces data centers se situent dans un tension, dans un contexte de tension géopolitique de plus en plus important. Ça peut devenir aussi des cibles pour des pays ennemis, ou je sais pas, pour prendre l'exemple du conflit Russie-Ukraine, la Russie pourrait cibler des data centers en Ukraine pour mettre à mal le pays. Est-ce que ça aujourd'hui c'est une réalité ou pas?
Alors, on va avoir effectivement ce genre de vulnérabilité du fait de la concentration de données de haute valeur dans des points. Bon, il y a l'incendie est plus simple que le conflit russo-ukrainien, mais on a aussi, en dehors de même le fait d'être bombardé, on peut avoir des tensions géopolitiques peuvent mener à des chantages ou des points de pression, que ce soit des pressions économiques ou des pressions donc ça effectivement l'autre aspect qu'il faut voir c'est et je pense qu'on viendra du coup à la on est dans une tendance de re-régionalisation de tout ça. C'est on a sur les différents endroits de la planète des aspirations différentes en termes de la façon dont on veut que nos citoyens, la relation entre nos citoyens, les données, nos industries, et donc nous Européens par exemple, on n'a pas nécessairement envie de suivre le modèle américain surtout.
Et est-ce que c'est possible même d'attaquer informatiquement un data center?
Voilà, c'est toujours possible. Il y a rien qui est invulnérable. Alors les acteurs du cloud y mettent beaucoup d'efforts, mais c'est jamais infaillible.
On l'a bien vu récemment avec des
donc,
affaires.
Donc c'est pas infaillible. Mais c'est effectivement toujours une course, hein. Et ces points de vulnérabilité, c'est des points de vulnérabilité d'un point de vue physique, mais ce sont aussi des points de vulnérabilité d'un point de vue informatique.
Ouais, comme dirait un spécialiste avec qui j'avais discuté, de toute façon. C'est-à-dire que les solutions viennent toujours après les attaques. En général, c'est un peu la course du chat et de la souris.
C'est ça.
Qui va trouver en premier la faille et la souris.
La course à l'armement.
C'est exactement ça. Tout à l'heure, tu nous as déjà un peu esquissé le fait que lorsque nos données sont stockées dans un data center, dans un cloud, elles ne nous appartiennent plus, ou en tout cas, elles appartiennent aux détenteurs du data center. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une problématique pour notre souveraineté et pour notre vie privée?
Alors, formellement, elles vous appartiennent toujours, si ce n'est que vous avez cédé vos droits,
voilà.
D'une certaine manière dessus. Donc, elles sont exploitables par les gens à qui vous avez volontairement cédé vos droits, même si vous n'êtes pas amusé à lire les 58 pages dont je parlais. Alors, c'est fondamentalement un vrai problématique de souveraineté. Vous avez peut-être suivi l'amende record qu'a eu lieu en Irlande. Et en fait, on se retrouve là. Un paradoxe qui est en fait une incompatibilité des droits européens et des droits américains sur les données. C'est-à-dire que finalement, les Américains sur le droit des données considèrent que c'est la propriété au sens possession d'une personne et donc rentrent dans le droit commercial et donc appliquent leurs contraintes aux sociétés américaines. Et en Europe, c'est la propriété au sens caractéristique d'une personne. Donc, en fait, c'est lié au droit de la personne. Et donc, en Europe, notre droit protège les personnes. On voit avec GDPR et puis avec ce qui arrive. Et donc, en fait, quand on se retrouve avec des sociétés américaines qui opèrent en Europe, on se retrouve avec potentiellement deux droits contradictoires, c'est-à-dire à la fois soumis au Cloud Act et à la fois soumis à la confidentialité de la personne. Et donc, c'est des enjeux. Là, on arrive sur les enjeux de souveraineté, c'est-à-dire finalement, comment est-ce que on peut décider d'appliquer une législation à un périmètre donné.
Et donc, pour ça, Hive peut être une solution intermédiaire en attendant que en Europe, on est un acteur, j'allais dire national, mais ça fonctionne pas vraiment pour l'Europe, mais en tout cas un acteur européen qui est parfaitement aligné avec la stratégie de la CNIL et les valeurs du Parlement européen.
Alors moi, je dirais pas en attendant, parce que je compte bien qu'Hive soit cet acteur-là. Mais l'avantage, c'est que on peut avoir un Hive européen qui opère avec des ressources européennes. Et des données européennes et avec du coup la loi européenne. Et puis Hive, quand il opère en Asie, il opère avec un périmètre asiatique et des lois asiatiques. Après, on peut avoir un périmètre plus général, complètement ouvert, dans lequel on va héberger des sites web qui n'ont pas d'enjeu particulier de protection des données. Donc en fait, la flexibilité qu'on a nous permettra d'adresser l'enjeu de souveraineté.
Hyper intéressant. Paul, je crois que tu voulais parler de cloud décentralisé et rentrer vraiment dans le dur du sujet. Dis-moi tout.
C'est vrai que je pense que c'est le moment peut-être de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière Hive. C'est quoi donc concrètement un peu le cloud distribué et est-ce que tu pourrais nous expliquer donc un peu les différences majeures avec le cloud, on va dire classique?
Alors, le cloud distribué ou décentralisé, alors il y a une petite nuance.
C'est la même chose d'ailleurs.
Distribué, c'est géographiquement distribué.
D'accord.
Alors, on verra pas mal de différentes définitions, mais la définition qu'on trouve couramment et que nous on adopte, c'est on a une distribution géographique. C'est-à-dire que, en fait, il est constitué, étant constitué par les ordinateurs des utilisateurs du monde entier, il est partout. Il est distribué. Et il est décentralisé dans la mesure que ses ressources sont pas sous l'autorité d'un acteur unique.
Mmh.
Donc, un peu pour donner l'image, et on reviendra peut-être sur l'image de la blockchain du Bitcoin, c'est il n'y a pas de banque centrale.
Exactement.
La Bitcoin n'est pas émise par une banque centrale, c'est possédé par ses utilisateurs, c'est décentralisé. Voilà. Et donc Hive, même concept. Les données, d'abord Hive n'a pas accès aux données de ses utilisateurs.
D'accord.
Elles ne transitent pas par Hive, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez mettre un fichier dans le cloud décentralisé de Hive, votre fichier est éclaté en plein de petits morceaux qui sont tous cryptés.
Ouais.
Seul vous possédez la clé. Et distribué sur une centaine d'ordinateurs, 100, 150 ordinateurs.
D'accord.
Sans passer par un centre Hive.
Les ordinateurs qui sont ceux de vos utilisateurs?
De nos utilisateurs. Donc, nos utilisateurs qui rejoignent la communauté.
Ouais.
Communauté, notre infrastructure, on l'appelle HiveNet. Ceux qui rejoignent la communauté de Hive sont fournisseurs et consommateurs du cloud.
Et si jamais un ordinateur est déconnecté d'Internet, qu'est-ce qui se passe?
Alors ça, c'est toute la magie des algorithmes qu'on a derrière. Effectivement, on veut fournir un service permanent avec des ressources qui sont intermittentes.
Ouais.
Vous êtes en état peut-être allumé 8 heures par jour, 10 heures par jour. En moyenne, nous, c'est ce qu'on observe, une dizaine d'heures par jour. Alors, ce qu'il faut, c'est au moment où on va envoyer le fichier sur tous ces ordinateurs, on va générer des morceaux supplémentaires. Vous pouvez imaginer pièce de puzzle, on va générer des morceaux supplémentaires. Et pour retrouver le fichier initial, on n'est pas obligé d'avoir tous les morceaux. Donc, je donne une image qui est souvent assez simple, c'est imaginer une matrice de Sudoku.
Okay.
Il y a des cases qui sont vides, mais calcul, vous savez les recalculer, vous savez les retrouver.
Ouais, effectivement.
Et donc, en fait, c'est le même principe. On rajoute des cases supplémentaires, des pièces supplémentaires.
C'est la même logique qu'un LLM ou pas?
C'est ce qu'on appelle les codes correcteurs d'erreurs.
OK.
Qui est utilisé dans l'industrie du numérique, dans des tas d'applications, et qui nous permet de reconstruire des morceaux manquants.
Est-ce que ça peut être un outil de placement, Hive? Est-ce que moi, en tant que possesseur d'un ordinateur et même de plusieurs ordinateurs, je pourrais vous louer de la capacité de stockage contre un rendement
Tout à fait. Donc, aujourd'hui, il n'y en a pas de doute là-dessus. Il y a des gens qui vont avoir besoin de capacité, venir nous voir parce qu'ils en ont besoin. Et puis, il y a des gens qui vont vouloir contribuer de la capacité. Et donc, en fait, on est un intermédiaire entre les gens qui contribuent. Les gens qui contribuent constituent l'infrastructure Hive, HiveNet. Et puis, elle va être consommée par ceux qui en ont besoin. Ceux qui contribuent, ils sont rémunérés, soit en ayant leur abonnement gratuit parce qu'ils consomment aussi de la capacité, soit en étant rémunérés en argent sonnant et ébruchant.
Des ordres de grandeur de combien on pourrait générer
Alors, ce qu'il faut voir, c'est là où le marché s'établit aujourd'hui.
Ouais.
Il y a une différence entre les prix du stockage cloud, qui sont d'ailleurs relativement élevés, et puis les prix sont élevés parce que on est face à cet oligopole.
Ouais.
Et puis les prix qu'on trouve de capacité en général. Aujourd'hui, les ordres de grandeur, c'est $1 par téra par mois, c'est à peu près ça ce que la capacité s'achète à peu près à ce prix-là aujourd'hui.
Donc tu nous l'évoquais.
Et en dehors de ça, vous pouvez être rémunéré en argent, mais vous pouvez être rémunéré en capacité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous contribuez suffisamment, votre abonnement cloud est gratuit.
Pour une entreprise, ça pourrait être pertinent d'acheter de la capacité de stockage quelque part et de la louer après à Hive, ou alors même d'acheter, je sais pas, un espèce de data center privé avec quelques terras de stockage et puis vous la louez.
Alors, à notre avis, déjà, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà des data centers privés, qui à un moment ont décidé de migrer leurs données vers le cloud parce que ça leur faisait des choses à maintenir, à opérer. Donc, en fait, la capacité disponible, des entreprises en ont aussi, les ordinateurs de leurs collaborateurs.
Ouais.
On pense dans un premier temps, d'ailleurs, ça va être un cas où elles vont vouloir que les données restent dans l'entreprise.
Ouais.
Donc, en fait, elles peuvent mutualiser. On peut imaginons un grand réseau bancaire sur toute la France, peut mutualiser tous ses ordinateurs et puis les données restent au sein du réseau bancaire.
Et Hive s'en occupe.
Et donc ça, Hive s'en occupe.
OK.
Voilà. Et donc, sera à la fois fournisseur et consommateur de capacité.
Et on peut vous utiliser comme on va utiliser, moi, par exemple, je suis un grand fan de iCloud. Je pourrais vous utiliser comme j'utilise iCloud.
Exactement. Et d'autant plus facilement que l'Europe vient de légiférer sur la fête d'obliger les fournisseurs dits de plateforme, hein, ouais. Comme c'est iOS sur votre téléphone si vous êtes sur iCloud, pour l'ouvrir à d'autres clouds qu'iCloud.
Ok. Voilà. Tu le mentionnais, donc on ne stocke plus grâce à cette solution dans des data centers. Quelle problématique ça permet donc de faire sauter? Est-ce que c'est des questions de coûts, d'environnement, de justement de confidentialité et d'appartenance des données, le tout? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que j'ai pas...
Les verrous, alors la confidentialité, puisque je dis même nous en tant que fournisseur de technologie, on n'est pas capable d'accéder à vos données, hein, donc d'où les questions de souveraineté aussi, hein. On a mentionné un petit peu le côté énergivore des data centers. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué en dehors de la consommation d'électricité pour que tourne. C'est simplement le fait que l'équipement le moins cher en termes écologiques, c'est l'équipement qu'on n'a pas besoin de fabriquer. Donc c'est l'équipement qui existe déjà. Aujourd'hui, en termes d'empreinte carbone, ce qui coûte le plus cher dans la vie d'un ordinateur, c'est sa fabrication. Donc à partir du moment où on a tous ces ordinateurs largement sous-utilisés, c'est aussi une chasse au gaspillage. Et un gain en termes d'empreinte carbone parce qu'on utilise des choses qui existent. Donc il y a effectivement la confidentialité, le coût, l'empreinte carbone qui sont les éléments essentiels.
Et donc comment vont communiquer en fait les différents utilisateurs? Il me semble que c'est fondé de ce que j'ai vu un peu sur le fonctionnement, le principe du peer-to-peer. C'est bien ça? Et comment ça se traduit en fait au niveau technique ou globalement?
Alors exactement, on utilise des technologies peer-to-peer. Alors les technologies peer-to-peer existent depuis une vingtaine d'années. Hein, ouais. Peut-être un moment où on faisait du téléchargement illégal de vidéos, pas mal. Ça s'est recentralisé puisque maintenant...
Au lieu d'utiliser ce que c'est le peer-to-peer?
Alors le peer-to-peer, c'est de pair à pair, c'est-à-dire d'individu à individu. C'est-à-dire que la communication, au lieu de passer par des grands serveurs dans des data centers, justement, se fait directement entre les individus.
Ok. Donc on passe pas par la case départ, en fait. On transite directement d'une personne à une autre.
D'un client à l'autre. Et donc quand vous échangez vos vidéos, vous téléchargiez des morceaux de vidéos à des gens qui les avaient déjà téléchargés.
Okay.
Aujourd'hui, vous téléchargez tout sur Netflix.
Effectivement.
Voilà. Donc, on est revenu dans un mode centralisé. Et donc, les technologies peer-to-peer ont évolué au cours des années. Et c'est là-dessus qu'on se base. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre fichier dans Hive, vous allez identifier des gens qui ont de la capacité disponible dans le réseau et vous leur envoyez directement vos données. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on n'y a pas accès. Ouais. Et on ne les stocke pas.
D'accord. Tu mentionnais également tout à l'heure la blockchain, donc particulièrement intéressant. On a un épisode dédié entièrement à un sujet, donc avec Bilal Al-Alami, et qui nous expliquait donc que c'était en quelque sorte un peu des nœuds fragmentés qui communiquaient entre eux. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce modèle et en quoi c'est proche en fait de ce qui se fait dans le Web 3?
Alors il y a des grandes similitudes.
D'accord. Lesquelles par exemple?
Et le concept décentralisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des nœuds qui communiquent entre eux.
Ouais.
Et on reviendra sur les aspects sécurité parce que la façon dont ils communiquent entre eux, c'est personne ne se fait confiance, déjà.
Ouais.
Donc, c'est conçu pour ne pas avoir besoin de faire confiance. Si les gens savaient générer des bitcoins et se rajouter de l'argent, ils l'auraient fait. Donc, il y a la similitude sur le côté complètement décentralisé et sécurisé, construit à la base pour être un système distribué sécurisé. Alors, on n'est pas rentré jusque dans le domaine des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que on cherche à avoir une offre démocratisée.
Okay.
Et on cherche pas à rester à un public averti.
Okay.
Donc on n'est pas allé jusqu'à la blockchain qui pourrait être utilisée pour faire de la crypto-monnaie la monnaie d'échange entre les utilisateurs. On est resté sur des modèles plus simples pour générer de l'adoption plus du grand public.
Comment être sûr que ces nœuds ils sont bien interconnectés et que moi comment je peux être sûr que mes informations elles fuitent pas, etc.
Alors là il y a d'abord dans notre application vous pouvez avoir une vue du réseau, vous voyez avec qui vous êtes connecté.
Ah donc on sait avec, par exemple moi je peux savoir que j'ai de la data chez toi.
Alors non, on veut respecter la confidentialité des utilisateurs, donc on dévoile pas des données personnelles. On reste sur des des notions géographiques au niveau de la région.
Okay. Hein. D'accord.
Mais on peut voir. Alors aujourd'hui, on va améliorer cette visualisation pour que vous pouvez le voir fichier par fichier. Mm-hmm. Pour voir ce fichier, je sais qu'il est stocké sur ces ensembles de nœuds. Donc ça, ça permet de le voir. Après, on utilise parmi nos moyens de communication en peer-to-peer, on utilise des choses qui sont connues et standards et qui peuvent être auditées. Donc, bien sûr, faut faire confiance au travail qu'on fait sur la sécurité et sur l'audit, mais on est relativement transparent sur la façon dont les choses fonctionnent. La seule chose que les utilisateurs qui leur assure leur confidentialité, c'est qu'il y a rien qui sort de leur PC qui n'est pas crypté avec une clé que seuls eux possèdent.
Ok. Et y a un terme intéressant sur votre site internet qui est résilience. Mm-hmm. À quoi ça correspond exactement cette notion de résilience de la donnée?
Alors, résilience de la donnée, c'est la garantie que la donnée va pas disparaître avec le temps. Alors, je donne un exemple. On a donné un exemple de manque de résilience qui est, ben, quand un data center
manque
de résilience. On pourrait avoir un autre problème de résilience sur ce cloud communautaire. C'est, imaginez que l'année dernière, vous avez envoyé votre fichier vers une centaine de personnes.
Ouais.
Mais que pour diverses raisons, elles ont fini par se désabonner.
OK.
Et en fait, ben, il n'y a plus assez de données pour récupérer le fichier. Alors, en fait, nous, on assure la résilience au fur et à mesure du temps. Enfin, nous, nos algorithmes, hein, parce qu'à la fin, c'est chacun dans la communauté contribue. En fait, on surveille quand des gens quittent le réseau, on va reconstituer des données en permanence. On va recalculer des morceaux de données pour que vous puissiez toujours retrouver vos fichiers. D'où le concept de résilience.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Et justement, donc, une même donnée, imaginons, donc j'upload un fichier, par exemple une vidéo sur Hive. Mm-hmm. Est-ce que tout le contenu, les données de la vidéo vont être stockées sur le même ordinateur ou justement est-ce qu'ils vont être tous aussi impactés et redistribués en fait?
Non, c'est fondamental qu'ils soient distribués sur plein d'ordinateurs. Donc,
d'accord.
Je disais,
en fait, vous fragmentez même les données.
Une centaine d'ordinateurs. On va aller même rajouter sur ces 100 morceaux 50 ou 100 supplémentaires. De toute façon, j'ai pas besoin qu'ils soient tous allumés pour récupérer ma vidéo. Voilà.
Et est-ce que tu peux peut-être donc nous expliquer un petit peu les différentes étapes du cheminement justement de j'upload un fichier sur Hive et ensuite quelques jours plus tard, je le retélécharge. Comment ça se passe? Donc, il y a un phénomène de fragmentation.
Comment ça se passe? Si c'est un très très gros fichier, je le sous-divise. Chaque morceau de fichier est éclaté, comme je disais, en une centaine de morceaux qu'on appelle des shards.
Hein, ouais.
Une centaine de morceaux et chacun est crypté avec une clé unique.
D'accord.
Donc en fait,
un SHA, c'est ça.
Donc en fait, une clé. Non, on est plutôt sur de la crypto type AES. Hein,
d'accord.
Et donc est crypté avec une clé unique. Qui est dérivé de la clé maître de l'utilisateur. Hein.
Ouais.
À la fois les morceaux d'origine et les morceaux qu'on a calculés. Et ça, ils sont envoyés vers des ordinateurs qu'on a choisis. Alors, on les choisit en fonction de la capacité qu'ils ont disponible, de leur fréquence de présence sur le réseau. Donc,
c'est un algorithme, c'est ça?
On a des algorithmes qui permettent de choisir qui vont être les réceptacles de tous ces petits morceaux de données. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous allez vous retrouver votre vidéo éclatée en plein de petits morceaux cryptés avec des clés différentes sur des ordinateurs différents.
D'accord. Et donc, quand on veut télécharger, tout est remis en ordre.
Quand on veut télécharger, en fait, on va interroger le réseau pour savoir qui possède ces données. Hein, et donc, parce qu'on a un identifiant de la donnée, un identifiant unique de la vidéo. Et puis, une fois qu'on a identifié quels sont ceux qui hébergent nos données, on essaye de les télécharger. Il peut y avoir des téléchargements qui marchent pas, hein, ou des données qui ont disparu. C'est pas grave, comme je le disais. On les rassemble, on décrypte chaque morceau, et puis on réassemble la vidéo.
Très clair. Et comment c'est reçu justement de la part de la communauté qui est autour de ça, cette innovation de manière générale?
Ben, il y a un grand intérêt, une grande curiosité. Donc, on a des aujourd'hui, on continue à développer et améliorer la solution.
Il y a combien de personnes aujourd'hui dans la communauté?
Aujourd'hui, il y a 1 000 000.
Ok.
On a lancé, donc Hive existe depuis à peu près 1 an.
Ok.
On a lancé une première version. En direction de nos utilisateurs pour que ils puissent nous aider à l'améliorer dès le mois d'octobre.
Ouais.
Et puis on vise une première commercialisation courant de l'été.
OK. Voilà. Donc quand cet épisode sortira, on fera en sorte que l'épisode sorte pile quand tu feras ton annonce. Tiens.
Très
on
bien.
On va essayer de coordonner ça pour faire quelque chose qui en plus vous sert pour vulgariser un peu le contenu.
Exactement.
Au-delà de nous permettre à nos éditeurs de comprendre cette technologie qui est entre nous hyper hyper intéressante. Pour le consommateur final, ça change rien du coup. Lui, à part le fait qu'il
final,
va avoir une nouvelle communauté.
Pour le consommateur, ça change rien. La seule différence qu'il va avoir par rapport à un Dropbox ou un Google Drive, c'est qu'on va lui proposer de contribuer, ce que les autres font pas. On va, alors aujourd'hui, on le fait pas encore. Aujourd'hui, c'est disponible en téléchargement, hein, d'ailleurs.
Ouais.
On va lui montrer ses gains, les gains qu'il fournit en termes d'empreinte carbone.
Ouais.
Les gains monétaires, s'il contribue suffisamment et qu'il a payé son abonnement, bah, il peut quand même commencer à gagner de l'argent. Donc, on va lui montrer tout ça, ce que les autres, effectivement, ne font pas. Sur l'usage, aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à être très accepté, le fonctionnement d'un storage cloud.
Ouais.
Et donc, on s'intègre avec l'Explorer Windows, on s'intègre avec le Finder du Mac, on a deux applis sur iOS et sur Android.
Okay.
Pour être le plus transparent et le plus commun, ce à quoi les utilisateurs ont l'habitude en termes de stockage cloud. Donc, de rendre vraiment l'usage le plus simple et démocratique et habituel.
Là-dessus, comment vous rémunérez? Vous prenez une petite marge sur la différence entre combien vous donnez si moi j'offre du stockage au réseau Hive et combien je paye pour stocker mes
datas? Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des offres de storage qui sont moins chères que celles des concurrents. Mais on rémunère nos utilisateurs, on se prend une marge entre ce qu'on rémunère nos contributeurs et ce qu'on fait payer à ceux qui consomment.
Ok, hyper intéressant.
J'avais une petite question, je me dis, imaginons qu'il y a une des personnes donc qui possède donc les données de quelqu'un, donc qui contribue à offrir sa puissance de calcul et elle casse son ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on perd les données?
C'est le même cas que ce que je disais, c'est de la personne qui se désabonne ou,
d'accord,
ou l'ordinateur qui est. C'est-à-dire que là, le réseau, au bout d'un moment, quand il y a, parce que le premier n'a pas vraiment d'importance, mais sur les 100, 150 morceaux, quand il va commencer à en avoir 10, 20 qui disparaissent, ben on va en régénérer.
D'accord, vous savez comment les reconstituer.
On sait comment en reconstituer de nouveau. Voilà.
Très fort.
Et donc, c'est un réseau qui s'auto-répare.
Il n'y a pas le risque un jour que il y ait trop de contenu. Mais s'il y a beaucoup de contenu qui disparaissent, il se trouve qu'il n'y a pas assez de data pour reconstruire un contenu.
Ah ben s'il y avait un orage nucléaire et que toute l'électricité était coupée et que tout coup, plus personne n'est sur le réseau, oui, on récupérera
mais,
pas les données.
C'est quel pourcentage qu'il vous faut au minimum pour pouvoir reconstituer les data?
Alors. Aujourd'hui, il nous faut autant de données que ce qu'il y avait dans le donné d'origine. Donc, en fait, si on, par exemple, on duplique l'ensemble des données, bah, il faut qu'on ait la moitié des gens connectés.
Ok.
Pour faire simple.
Et c'est cet ordre de grandeur.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on rémunère pas nos utilisateurs à la capacité, mais à la capacité et au temps qu'ils laissent cette capacité disponible. Quelqu'un qui laisse son ordinateur allumé qu'une heure par jour, on va moins le rémunérer que quelqu'un qui laisse son ordinateur allumé en permanence.
Mais ça, du coup, c'est pas antinomique avec votre impact environnemental parce que du coup ça fait en sorte qu'il y ait plus d'ordinateurs allumés en permanence, donc plus de consommation.
Ce qu'on demande à nos utilisateurs, c'est de pas changer leurs habitudes.
Utiliser en fait le temps consommation.
Et on utilise quand il utilise son ordinateur, il est allumé. Quand il l'utilise pas, il l'utilise pas.
Ok.
C'est quoi les grandes difficultés ou les gros enjeux que vous avez rencontrés pour implémenter cette technologie, en tout cas la conceptualiser, la.
Alors on est qu'au début.
Ouais.
Parce que je pense que l'aventure technologique va continuer. On a des enjeux autour de la résilience des données, comme on a dit, autour de la sécurité, autour de la confidentialité. Et là, on mentionnait que la sécurité, c'est toujours une course à l'armement. Et on a, alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que par rapport à une offre de stockage centralisée dans un data center, ce qu'il faut qu'on fasse derrière pour fournir le même service est beaucoup plus complexe. Parce que, effectivement, on a tous ces canaux de communication à gérer, ces données à rassembler, et on veut fournir la même qualité d'expérience que les offres qui existent aujourd'hui. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle ces acteurs sont partis sur des offres centralisées, c'est que c'était plus simple et plus rapide pour eux.
Ouais.
Et puis du coup, ça s'est mis à dériver de ce modèle décentralisé d'origine. Donc en fait, arriver à fournir une expérience aussi simple, aussi bonne et aussi sécurisée, bah, c'est un enjeu de technologie bah, qu'on continuera à avoir hein, pendant de nombreuses années.
Comment t'es tombé là-dedans, toi ?
Comment je suis tombé dans... Ouais,
parce que je me dis, faut être quand même un peu fêlé pour se lancer des défis. Après, moi, tout le monde trouve au quotidien que je suis complètement fêlé parce que
je confirme. Je
suis toujours un peu plus loin. Mais
Il y a plusieurs réponses à ça. Alors, d'abord, l'idée initialement est née chez David Gurley, hein,
ouais.
qui est notre fondateur, et précisément parce qu'on avait une préoccupation sur le coût du cloud.
Ouais.
Les coûts, parce qu'on opérait de la messagerie sécurisée pour les services bancaires,
okay.
et les coûts explosaient.
Ouais.
Et donc, on se disait, c'est pas possible, on a toute cette capacité disponible et on paye ça une fortune.
Ouais.
Donc l'idée a germé là, et puis donc on finit par se décider de se lancer dans l'aventure. Hein, donc et moi, ce qui a aussi été un des moteurs, c'est je pense que on a moyen de faire des belles choses en Europe, et souvent on manque de projets ambitieux.
Ouais.
Et donc j'étais toujours intéressé et passionné hein, un peu par ces projets ambitieux. On a tendance à se dire, et j'ai vu ça quand j'ai monté ma toute première boîte, que si ça n'a pas déjà fait, c'est que c'est pas possible. Et en fait, non, ça n'a pas déjà été fait, c'est que ça n'a pas déjà été fait.
C'est qu'il n'y avait pas un mec
exactement.
Donc, et puis, il y a des bonnes.
Presque frileux, justement, de partir sur des projets qui paraissent insurmontables et que finalement, en fait, il y a beaucoup de place et il faut laisser la chance, en tout cas, du doute.
Exactement. Et puis après, il y a des bonnes choses il y a des bons moments pour lancer les choses.
Exactement.
Par exemple, pourquoi aujourd'hui c'est le bon moment? Je pense qu'en 2014-2015, l'empreinte écologique des data centers, ça intéressait personne.
Ouais.
Vous m'auriez jamais posé la question.
Ouais.
L'utilisation du cloud, bon, j'ai réexpliqué ce qu'était le cloud, mais il commence à y avoir une bonne partie des en tout cas au moins des jeunes, qui savent ce qu'est le cloud. Aujourd'hui, on a de la fibre. Faire du peer-to-peer avec une liaison, même ADSL un peu mauvaise, c'est dégrader l'expérience. Donc aujourd'hui, les conditions sont là. L'attente du marché est là, la préoccupation de la souveraineté, de l'écologie, du coût est là. Donc en fait, c'est le bon moment, et donc on peut faire appel à 20 ans de technologies qui ont évolué pour mettre cette offre sur le marché. Après, il y a un autre aspect, si on revient sur les aspects technologiques et européens. En fait, on voit, il y a eu des recherches de cloud souverain.
Ouais.
Et puis à chaque fois, on se dit, bon, bah, ça va être... Thales va faire ça avec Google, ou on va faire ça avec Microsoft. Donc en fait, ça reste du cloud souverain géré par les acteurs dominants. Il y a ces grandes initiatives de faire interopérer des acteurs du cloud centralisé en Europe. Et finalement, on essaye de faire ce qu'ils ont fait avec 10 ans de retard. Nous, on pense que, enfin, ce qu'on voudrait hein, apporter notre pierre à l'édifice, c'est faire une approche disruptive, dans la mesure où, si on veut construire la capacité qu'ils ont réussi à accumuler dans tous tes data centers, mais en construisant des hangars, en achetant des serveurs, la manière la plus simple, c'est de se mettre tous ensemble et puis les petites rivières font les grands fleuves.
Vous êtes soutenu par le Parlement européen, la CNIL, etc. ou pas plus que ça?
Pour l'instant pas. Néanmoins, on discute avec des acteurs publics.
Ouais.
Pareil, on discute avec la Banque publique de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui soutient des projets de cette nature. Et on est aussi, on a un partenariat, par exemple, avec l'INRIA, qui est très intéressé par les sujets de cloud souverain sur les aspects technologiques.
Ouais.
Donc, on suscite l'intérêt de nombreux acteurs du monde technologique et politique.
Mais pas encore vraiment les politiciens, entre guillemets, qui créent ces espèces d'initiatives qui sont pour l'instant très, très souvent comme des échecs de création d'un cloud souverain.
Ben, d'abord, on pense que c'est par l'entrepreneuriat et les forces vives et les startups que naissent les grandes idées. On n'attend pas particulièrement de l'État qui définisse comment on va réussir la problématique de cloud souverain. Mais en revanche, si on sait apporter aux communautés nationales, alors je cite pas que la France, parce qu'on pour que ça marche, il faut que ça soit global.
Ouais.
Mais comment on peut apporter une solution de cloud souverain à l'État français ou à l'Europe Et puis à d'autres États dans le monde, on sera bien sûr bien preneur.
Est-ce qu'il y a des inconvénients au cloud distribué par rapport au cloud computing classique?
Tu dirais la complexité.
Ouais.
Hein, c'est si aujourd'hui le passage de l'internet au web 2.0 que je mentionnais tout à l'heure s'est fait de manière centralisée, c'était plus simple et plus rapide.
Mm-hmm.
Donc la complexité et la complexité, mais aussi la beauté des fois du modèle économique et puis de la technologie qui est sous-jacente, ça reste complexe à maîtriser.
Ouais. Tout à l'heure, pour revenir un petit peu en arrière, tu me disais que du coup, il fallait faire plus de données. Par exemple, si je t'envoie une vidéo, tu la multiplies par un facteur, je sais pas de combien. Il est de combien ce facteur?
Alors, ce facteur, il est directement lié à la façon dont les gens utilisent leur machine.
Ok.
Donc là, je disais, et c'est pour ça qu'en fait, on va multiplier les sources de contribution.
Ouais.
Aujourd'hui, on identifie, il y a quelques sources. Il y a vos ordinateurs personnels, où je disais, un laptop, il est allumé 10 heures par jour, en moyenne, c'est ce que nous, on observe. Votre téléphone mobile.
Ouais.
En fait, on va pouvoir contribuer depuis son téléphone mobile, puisqu'il commence à avoir de la capacité négligeable.
Ouais, ouais.
Et lui, il est allumé 24 heures sur 24.
Il va manger ma batterie. Hein.
Ben, on peut, mais on va l'utiliser quand il est sur la table de nuit, branché au Wi-Fi la nuit.
OK.
Et là, effectivement, il est en charge. Donc,
ma
batterie. Et lui, il est allumé 24 heures sur 24. Et puis après, on a des dispositifs, on a les petits serveurs qu'on appelle des NAS qui sont à la maison, qui hébergent les photos de certaines personnes qui n'ont jamais voulu les mettre dans le cloud.
Ouais.
Donc là, on est sur une communauté plus avertie, mais qui peuvent fournir des grosses capacités.
Okay. Et
des NAS, ça peut fournir 50, 100 Tera.
Pourquoi des NAS?
Donc, Network Access Storage, c'est des petits serveurs de maison.
Ah, ok. Ouais, ok.
Et comme un disque dur externe, mais indépendant, qui se branche sur le réseau. Après, on peut imaginer, effectivement, les box, Internet.
Ouais.
On peut imaginer des tas de dispositifs qui disposent de ce cas.
OK. Hyper intéressant. Paul, est-ce que tu as eu une autre question ou on passe à une autre thématique?
Plutôt une petite remarque. C'est vrai que depuis tout à l'heure, ça me fait vraiment beaucoup penser aussi à, comme tu le disais, à toute la philosophie derrière la décentralisation dans le Web3, notamment avec le principe de DAO. Il y a aussi des rémunérations comme ça, la contribution pour différents types d'applications, et qui prônent donc un numérique quand même bien plus souverain et surtout centré sur l'utilisateur et plus sécurisé. Mmh. C'est vraiment votre vision pour l'Internet du futur?
Oui, l'Internet du futur va retrouver, à notre sens, ce qui a fait son origine, c'est-à-dire effectivement, c'est finalement l'ensemble des internautes qui constituent l'Internet. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on fait référence au cloud communautaire, distribué, décentralisé, sont ses caractéristiques. C'est un cloud constitué par la communauté et c'est là qu'on retrouve les aspects de souveraineté. Et quelque part, c'est un cloud... For the people, by the people,
exactement.
Et aujourd'hui, je dirais que c'est tellement au centre de nos vies.
Ouais.
Notre vie numérique, c'est tellement
nos
vies.
On s'en rend pas compte, mais.
Que l'avoir délégué comme ça à un nombre limité d'acteurs complètement centralisés, c'est une perte de nos propres souverainetés sur nos propres données.
Et est-ce que tu vois d'autres applications, même dans le numérique, à ce modèle-là, autre que le cloud?
Oh, certainement, on citait la monnaie, qui avec les blockchains. Nous, on se focalise, on a déjà, je pense, gros travail à faire une offre cloud
très complexe,
décentralisée. Donc après, une fois que ça existe, on pourra multiplier les applications dessus. D'ailleurs, si on regarde le cloud qu'on appelle HiveNet, ça, c'est vraiment le cloud communautaire, mais c'est comme un gros data center virtuel finalement. On fait une première application qui est HiveDisk, qui est du stockage sur ce cloud. Après, on va faire du calcul. Je mentionnais, on peut faire de l'hébergement de mail. On peut faire, on va laisser la possibilité à des gens de construire leurs propres applications sur ce cloud distribué. Donc, notre vision, c'est que du coup, ça devienne vraiment une plateforme pour faire des applications cloud distribué.
On entend le studio d'à côté qui fait un peu de bruit. Antoine, en termes de, tu nous parles depuis tout à l'heure de la communauté qu'il y a derrière Hive, à quoi elle ressemble? Est-ce que des personnes échangent entre eux? Est-ce que c'est sur une plateforme particulière ou c'est sur l'application Hive? Je sais pas.
Ouais, puis même à quoi elle ressemble en termes de profil? Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt proches de la tech ou pas du tout, qui comprennent ce qui se passe ou...
Oui, pour être honnête, aujourd'hui, c'est vraiment un public averti. Pourquoi ? Parce que c'est on n'est pas encore à la phase de commercialisation, donc c'est des gens qui ont été attirés par la curiosité ou par la vision.
Mmh.
Hein, donc c'est une communauté qui reste une communauté technique de et une communauté avertie et qui nous aide à mûrir dans le produit, hein, donc qui nous font des retours, donc je les remercie.
C'est vos bêta testeurs en fait.
C'est nos bêta testeurs, bien sûr. Et en fait, c'est d'ailleurs avec eux qu'on va continuer à faire évoluer, puisque on mettra notre roadmap, notre feuille de route produit à disposition du public pour qu'ils contribuent. Il contribue en demandant les prochaines features, les prochaines fonctionnalités hein, qu'ils veulent voir intégrées dans la plateforme.
Il y a combien de personnes qui travaillent là-dessus en ce moment au sein de Hive ?
Aujourd'hui, Hive, c'est un peu moins d'une quarantaine de personnes.
Ok, ça fait un an que ça existe. La croissance, elle est pas mal quand même.
Ça allait assez vite. Mais bon, pour concurrencer Google Drive ou Dropbox, on peut pas y aller doucement.
Vous avez levé des fonds ?
On a levé des fonds milieu de l'année dernière.
Ouais, ça a été un cheval de bataille difficile ou ça va ?
Non, parce que je pense que la vision parle, la passion se sent.
Ouais.
Et donc en fait, c'est bien sûr un pari, hein. Et puis après, il y a bon déjà de l'expérience entrepreneuriale, hein, à la fois de moi et de David. Donc je pense qu'il y a une confiance dans l'équipe.
Mmh.
David qui a un grand passé d'entrepreneur.
Hein. Ouais.
Donc à la fois la combinaison de la confiance dans l'équipe, la passion et la vision. On n'a pas eu tant de mal à convaincre. Il fallait suivre ce projet.
Hyper intéressant, Paul. Et est-ce qu'on peut dire que le cloud distribué est donc vraiment plus vert que le cloud classique ? Est-ce qu'on peut même imaginer que c'est un cloud vert ?
Ça, on le revendique.
Ouais.
Et ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de travailler avec des experts pour le quantifier.
D'accord.
De façon à pouvoir en restituer l'information à l'utilisateur. Lui dire combien il gagne en ayant stocké ses données chez Hive plutôt qu'ailleurs. Donc ça, attendez quelques mois et puis vous verrez ça dans l'application Hive.
Vous arrivez à mesurer l'impact carbone de...
Voilà, on travaille avec des experts pour qu'ils nous aident à définir les algorithmes. C'est pas simple parce que c'est forcément quand on distribue ces données sur une centaine d'ordinateurs, les ordinateurs, ils sont pas au même endroit dans le monde, donc leur propre empreinte carbone est différente. Mais donc, on travaille sur les algorithmes qui nous permettent de mesurer ça. Mais les études sur les modèles décentralisés peer-to-peer qui existent montrent qu'on peut attendre un gain 3 à 4.
Un gros travail de vulgarisation, du coup, j'imagine, auprès de votre communauté et même du grand public sur ces thématiques-là.
Un gros travail de vulgarisation. Donc, on va commencer avec la phase de lancement commercial à être beaucoup plus présent. Hein, parce que là, on était dans une approche plus auprès d'un public averti. Et par rapport aux initiatives qu'il peut y avoir eu dans le monde décentralisé, on a mis un point d'honneur à être utilisable par le grand public. Hein. Donc, moi, je veux que ma mère sache l'utiliser.
Ah.
Voilà. Et donc, forcément, ça passe par de la vulgarisation sur les points qui peuvent inquiéter les gens. Mais les préoccupations d'un public averti, technophile, voire anti-GAFA, sont des préoccupations qui peuvent être aussi différentes du grand public.
Ah ouais.
Et ça, on est très curieux de savoir, d'ailleurs, sur ces différentes populations, quels sont les différents intérêts. Et puis, on va essayer de satisfaire tout le monde.
Donc, si jamais dans nos éditeurs, il y a des personnes qui sont intéressées et qui sont pas forcément... contre les GAFAM, ils peuvent te contacter pour te participer
absolument.
À l'aventure live, etc.
Absolument.
On encourage les gens, je pense, à aller voir et pourquoi pas rejoindre la communauté de testeurs pour ceux qui sont...
Exactement. Aujourd'hui, le produit existe, il tourne. Vous pouvez aller sur hivenet.com et alors que vous soyez, que vous ayez envie d'avoir une solution européenne, que vous avez envie d'avoir une solution verte, une solution pas chère ou une solution qui n'est pas les GAFA, on répond à ces quatre critères.
Il y en a pour tout le monde. On rappelle quand même que cet épisode n'est pas sponsorisé par Hive. Hein.
C'est vrai.
On pourrait le croire. Paul, est-ce que tu avais une question ?
Ouais, peut-être un petit peu terminer sur des notions rapidement de sécurité. En quoi c'est plus difficile à attaquer un réseau qui soit décentralisé que justement...
Ben, D'abord, comme je disais, si vous voulez retrouver un fichier, il va falloir que vous alliez le récupérer sur une centaine d'ordinateurs qui sont beaucoup tous différents. Hein, ouais. Ils n'ont pas les mêmes failles de sécurité. Donc d'abord, c'est très fastidieux. Chaque morceau est crypté avec une clé différente. Donc,
d'accord, on ne sait même pas en fait quel ordinateur est lié à l'autre.
Et on ne sait même pas, parce que c'est choisi brouillé, par un ordinateur de départ. On n'a même pas l'identifiant du contenu à récupérer.
D'accord.
Donc en fait, la conclusion, c'est que la plus simple pour récupérer le fichier, c'est d'aller le voler à l'utilisateur d'origine. Et donc, on se retrouve sur le point faible, finalement, c'est l'humain et c'est l'utilisateur d'origine.
Bien sûr, donc encore une fois, un travail énorme de vulgarisation pour encourager les gens à comprendre la sécurité. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus.
Est-ce que il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé qu'on aborde ?
Un sujet qu'on n'a pas abordé et que j'aimerais qu'on aborde.
Des précisions sur certains.
Oh, je crois. On a couvert pas mal de sujets. Moi, parmi les sujets, je pense qui seraient intéressants de creuser, qui sont des sujets connexes, c'est l'évolution du cloud en général.
Ouais.
Et puis même de l'internet en général. Je pense qu'on va rentrer dans des phases en raison en particulier des tensions géopolitiques, mais aussi de la complexité et puis de l'évolution économique des sujets comme l'IA qui arrive, on va rentrer vers une phase de régionalisation des offres.
Ouais.
Et donc, en fait, je pense que le marché est en train de changer. Et c'est pour ça aussi que je crois beaucoup en l'approche décentralisée distribuée, parce que il faut des approches technologiques qui permettent un modèle régionalisé.
Qu'est-ce qui te fait avoir l'impression qu'on arrive sur un modèle régionalisé ?
Parce que on voit d'un côté les géants du numérique aujourd'hui, si on regarde les enjeux technologiques en particulier en termes d'IA, il y a le marché chinois qui va vers une approche très centralisée étatique et un contrôle de par l'État.
Ouais.
On a une approche américaine beaucoup plus ouverte, mais très contrôlée par des géants du numérique.
Ouais.
On a une approche européenne qui se cherche.
Ouais.
Et puis, donc, on a des contextes qui, d'un point de vue juridique, étaient inexistants, mais du coup, qui sont en train de se cristalliser autour de grands pôles, qui sont le marché européen, le marché américain, le marché chinois. C'est pas nouveau, mais c'est en train de... On voit déjà l'Internet qui se referme autour de certains blocs. Hein.
Ouais.
Donc, ça c'est en train de se traduire, au bout de dizaines d'années, dans des évolutions de la législation, dans des volontés politiques, sur quelque chose qui était un développement hyper rapide anarchique.
Et ça, c'est problématique pour toi ?
C'est, en dehors d'être problématique, je le vois comme un état de fait. Et donc, je pense que c'est un changement, donc une opportunité.
Okay.
Moi, comme je dis, j'ai toujours voulu contribuer à l'innovation en Europe. Donc, je pense que l'Europe a une carte à jouer d'en retrouver sa place et sa force dans le monde numérique. Puis on est ici à Vivatech, hein, donc c'est aussi l'occasion de promouvoir la technologie européenne. Et donc c'est bien d'en prendre conscience et de pas considérer que le modèle qui préexistait il y a 10 ans, qui préexiste et qui existe aujourd'hui, sera éternellement celui-là.
Parce que c'est une question qui est à la fois sociale et politique. Est-ce qu'il y a des grandes questions que tu te poses sur la société, sur ce sujet ou d'autres, qui impactent la société ?
Je viens d'en citer un qui est comment est-ce qu'on peut retrouver le fait que notre indépendance numérique, c'est notre indépendance tout court. Donc ça, c'est pour moi un facteur fondamental. Ce qui est sous-jacent à ça, pour aller au-delà, c'est la relation des individus à leurs données, ou la relation des individus à leur identité numérique. Et ça, c'est quelque chose où je pense les visions au travers du monde sont relativement différentes. Et donc, on est en train de voir émerger, on a les événements récents, où on voit par exemple le harcèlement numérique.
Le
harcèlement numérique, on a eu plein d'événements dernièrement. Et on voit que dès le plus jeune âge, la gestion de son identité numérique, c'est quelque chose, d'ailleurs, nous, en tant que parents, on est démunis parce qu'on n'a pas vécu ça. Donc, on ne sait pas conseiller nos enfants.
C'est une fracture sociétale, je trouve, vraiment, au niveau de l'âge, entre les différentes générations. On a des générations qui sont plus ou moins.
Exactement. Là,
là-dedans, quoi.
en fait, on a notre directeur produit qui vient d'avoir une petite fille et on disait voilà un premier enfant dans la société né sous l'ère de ChatGPT.
Ouais.
Et donc, ouais. Qui aura quelqu'un à qui demander comment contourner le contrôle parental. Et donc en fait on est dans effectivement des grands enjeux autour de qu'est-ce que c'est que l'identité numérique,
ouais.
Et des visions qui vont être différentes dans le monde. Et donc il faut des solutions technologiques qui savent s'adapter à ces différentes visions.
Hyper intéressant. Est-ce que tu as des personnes recommandées pour creuser ces sujets-ci ou pas forcément?
Alors, sur les sujets plus généralement de cloud distribué et d'évolution technologique et sociétaux, on a un fort partenariat avec l'INRIA,
ouais.
Qui en France est un bras...
Avec qui on discute
armé,
pas mal en ce
donc,
moment.
Ouais. Donc en fait, bon, il y a Bruno Sportis
ouais.
qui était un de nos gros sponsors du projet. Donc donc on est engagé dans un partenariat de 4 ans. Il y a 5 labos de recherche qui travaillent avec nous, avec sous la direction de Claudia Igna. Après, j'avais sur les thématiques, parce que ça aussi c'est un enjeu sociétal, la question de l'énergie. Alors je viens sur quelque chose qui est un petit peu connexe, qui est l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup,
ouais.
En particulier sur ce salon. Et je pense aujourd'hui parmi les choses qu'on évoque relativement peu, peut-être parce qu'on ne sait pas le mesurer, c'est effectivement l'impact environnemental. C'est-à-dire c'est extraordinaire de voir à quel point on arrive à recréer du mimétisme d'une intelligence artificielle, mais si on compare la performance énergétique d'un cerveau humain avec la performance énergétique de ChatGPT, je pense qu'on a quand même quelques millions d'années d'évolution qui font que nos neurones restent d'un point de vue énergétique un peu plus efficaces. Et alors la question est un peu compliquée parce que du coup, est-ce que c'est ça la façon la plus efficace de produire des résultats? Et donc ça, c'est une discussion que j'avais avec une femme dans le monde de l'IA qui s'appelle Mitte de Kevlar,
je
passerai ses coordonnées, sur les impacts éthiques et sociétaux de ces évolutions technologiques.
Hyper intéressant. Eh ben, écoute, merci beaucoup Antoine pour cet épisode.
Merci infiniment.
Et j'invite nos auditeurs à s'abonner à la newsletter où on décortique chaque semaine les actualités technologiques de la semaine et à partager ce podcast sur tous les supports. Je suis ravi à chaque fois de voir des partages sur LinkedIn, Instagram, etc. Que je me fais une joie de liker, commenter, etc. Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
Au revoir.
À très bientôt.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.